Bonjour, c'est Jean Lebrun. Le journal intégral de Julien Green paraît dans la collection bouquins, du moins pour la période 1919-1940. Il y apparaît comme un jeune homme empli d'innombrables désirs. Les a-t-il réfrénés plus tard ? Voici une émission de Claudine Chonnaise qui lui est consacrée. Elle date de 1972. Green a alors 72 ans et c'est Pierre Vanek qui lit des extraits du journal.
Revanche de l'instinct, chez un petit garçon élevé dans l'idée que le corps est le temple du Saint-Esprit, Julien, qui a un talent certain de dessinateur, se met à dessiner des nudités en toute innocence, lui semble-t-il. Mais par rapport à sa famille, à son éducation rigide, il devine bien que c'est mal. Il dessine, les joues en feu, mais sans même le savoir ou se l'avouer, il cache ou détruit les feuilles ensuite. Ajoutons qu'un premier flirt chaste et enfantin avec une petite Marceline dont les cheveux sentaient bon est interrompu par l'inquiétude d'une des sœurs aînées, décidément dans la tradition familiale. Julien, toujours obéissant et sage, se soumet très naturellement avec un peu de mélancolie. Mais le trouble vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas Green qui le dit, sera, me semble-t-il, désormais pour lui associé avec quelque obscure idée de péché. Que l'on s'étonne si, au lycée, les propos de ses condisciples ou leurs gestes sans pudeur le font rougir jusqu'aux oreilles, et s'il ne peut supporter qu'un coude ou un genou le frôle. Voici la charnière, si l'on peut dire, entre ses dégoûts et ce qui sera l'évolution de l'adolescent vers une sensualité qui n'ose dire son nom.
Je ne sais pourquoi je pense de nouveau au petit B. Depuis qu'il avait fait le geste indescriptible, il m'apparaissait comme un de ces démons dont parle l'Évangile et qui jettent les gens dans le feu ou dans l'eau. Son beau visage safrané avait à mes yeux quelque chose d'inhumain, et je ne pouvais m'approcher du garçon, ou plutôt le voir s'approcher de moi, que je ne me sentisse envahi par une émotion violente, qui était sans doute de la colère. Un jour, il me dit à l'oreille des choses dont le sens m'échappa, et je l'insultai. Je ne me souviens que trop bien de ce que je lui dis. C'était encore du temps de mon antisémitisme. Sale juif. Cette triste injure. Nous étions sur le seuil de la classe que nous allions quitter après le cours d'allemand. Notre professeur se tenait derrière nous. Il s'appelait Kessler. C'était un ancien officier à la taille élégante, vêtu d'une redingote bien coupée, qui lui moulait le torse et s'évasait autour des reins. Il portait toujours un monocle. Et sa parole, souvent sarcastique, nous atteignait comme un léger coup de fouet. Lorsqu'il entendit ce que je disais à B, il nous retint dans la salle de classe dont il ferma la porte, puis il dit simplement « Expliquez-vous ». Je me jetai de toutes mes forces sur mon adversaire qui roula avec moi au pied de l'estrade. Une telle fureur nous animait tous deux que nous ne songions même pas à crier, et ce fut dans le plus grand silence que nous fîmes de notre mieux pour nous tuer. Aujourd'hui, que je vois ces choses avec plus de lucidité, il m'apparaît clairement que nous nous libérions, sans le savoir, d'une sorte de rage amoureuse qui prenait le visage de la haine. On eût sans doute bien étonné M. Kessler en lui donnant cette interprétation de notre corps à corps. Debout, les jambes écartées et les mains derrière le dos, il surveillait cette bataille du haut de l'estrade, du podium, comme il l'appelait. Et quand il jugea que nous avions vidé notre querelle, il nous donna l'ordre de nous relever, ce que nous fîmes, les yeux flamboyants et nos vêtements couverts de poussière. Nous ne nous serrâmes pas la main et je courus chez moi pour dire que j'avais battu le petit juif, pendant qu'il courait chez lui, dire qu'il avait battu le petit chrétien. Mon père sourit dans sa moustache parce qu'il avait parfois des démêlés avec les hommes d'affaires juifs, et ma mère, qui était elle-même batailleuse, fit entendre un éclat de rire en écoutant mon récit. « Mais je n'ai rien contre les juifs, » dit-elle en guise de conclusion. La vérité m'oblige à dire que j'avais eu probablement le dessous dans cette histoire, car je garde le souvenir d'un petit corps massif écrasant le mien et d'un souffle brûlant sur mon visage.
À l'université, parmi tous ces jeunes gens dont beaucoup sont libérés ou font semblant de l'être, Julien a appris beaucoup de choses par les mauvais livres prêtés, les dictionnaires ou l'œuvre d'Havelock Ellis. Il n'est plus intellectuellement innocent. Il est plus inquiet que jamais. Pourtant, le pur amour de la beauté personnifié par un camarade, Marc, est pour lui opposé à toute réalisation. Pourtant, il devine bien ce qu'il en est. Et parfois, la vie se charge de le renseigner. Souvent avec beaucoup de douceur, comme dans cet épisode lors d'une visite à un vieux moulin.
Cette nuit-là, on me conduisit à ma chambre qui donnait sur la rivière. Comment oublierais-je que ma lampe soufflée, je fus livré à une insomnie bienheureuse par le chuchotement de l'eau et par la lumière de la lune dont les rayons tombaient droit sur le pied de mon lit. La pièce était aussi petite qu'une chambre de poupée. Le plafond, on le touchait de la main en se tenant debout. Autour de moi, je regardais tout avec émerveillement. Un fantôme fut entré là qui eût été le bienvenu. J'attendais un peu quelque chose de ce genre. Tout à coup, se mêlant au murmure de la rivière, je perçus le son de deux voix qui parlaient doucement dans la nuit. Une voix d'homme et une voix de femme. Jeunes, toutes deux. Rieuses. Complices. À certains moments, elle baissait de ton comme pour dire des choses plus secrètes. À d'autres, elle se taisait. Et c'était alors que mon imagination prenait feu. Je me figurais deux visages d'une beauté rayonnante qu'effleurait la lumière nocturne et qu'un baiser rivait l'un à l'autre. De nouveau, il y avait ces rires coupés de silence qui me bouleversaient. Une lourde tristesse s'installa en moi, l'envie terrible de connaître la joie de l'amour. Sans doute, le confus bavardage de l'eau couvrait-il les soupirs des amants. Ils se croyaient seuls. Ils ne pouvaient savoir que j'écoutais, étendu sur mon lit à quelques mètres d'eux. Au bout d'un instant, je sombrais tout à coup dans le sommeil. Mais le souvenir de cette heure à la fois cruelle et délicieuse me resta dans la mémoire, isolé de beaucoup d'autres que j'ai oubliés.
Un jour enfin, après de longs mois de muette timidité, Julien ose frapper à la porte de Marc.
Presque aussitôt, la porte s'ouvrit toute grande. Marc était devant moi, si près que son épaule touchait presque la mienne. « Oui, » dit-il. Je ne pus répondre. Il sourit et me dit d'entrer. La chambre était petite, meublée de deux lits, l'un au-dessus de l'autre, et de deux fauteuils à bascule. Les murs étaient blancs, les boiseries peintes en vert sombre. C'était le décor qu'avait connu Edgar Poe, dont la chambre se trouvait en face, dans la galerie ouest. Au lieu de me demander ce que je voulais, ce qui m'eût glacé, Marc me fit asseoir et me dit sans préambule qu'on lui avait appris qui j'étais et qu'il était heureux de me voir. Sa voix haute et claire avait toutes les intonations du sud qui m'étaient chères. Et je ne me lassais pas maintenant que cela m'était permis de regarder ce visage d'un brun tirant sur le rose et auquel les yeux d'un noir de charbon donnaient une splendeur magique. « Moi aussi, » dis-je enfin quand je pus articuler un mot, « il y a longtemps que je voulais vous voir. »« Vous n'auriez pas dû attendre, » fit-il avec un sourire. Cette phrase fut pour moi un coup de couteau. J'avais perdu des mois et des mois de bonheur. Me voyant interdit, il me parla de choses et d'autres et proposa de me faire entendre un air de guitare. Puis, penché sur cet instrument qu'il effleurait à peine des doigts, il se mit à chanter à mi-voix. Je me souviens qu'il avait ôté son veston et roulé les manches de sa chemise sur ses bras. Sans pouvoir tout à fait y croire, je voyais ce profil au nez court et aux lèvres pulpeuses qui s'inclinait à moins d'un mètre de moi contre le fond blanc du mur, et je fis la réflexion que cette minute effaçait toute la tristesse des années passées. Sans doute chantait-il parce qu'il devinait ma gêne et me voyait muet. Une fois de plus, l'envie subite me prit de le serrer dans mes bras. Cependant, il y avait dans toute sa personne quelque chose de si sensuel, mais aussi de si chaste, et il faut bien le dire, de si virginal, que ce geste me parut impossible. Il était vigoureux comme un ange, si ces mots peuvent avoir un sens, et comme un ange, il devait être capable de violente colère. Cela, il le portait sur son visage. Son petit nez, aux ailes ouvertes, trahissait un tempérament batailleur. Au bout d'un quart d'heure, il me mit la main sur l'épaule et me dit qu'il lui fallait maintenant travailler. « Pourrais-je revenir ? » lui demandai-je. Il se mit à rire et serra ma main dans la sienne. « Tous les jours, » fit-il. Quand il eut refermé la porte de sa chambre, je me mis à courir le long de la galerie et, descendant les marches, gagnai la route qui menait dans la campagne. Je ne voulais pas rentrer chez moi, je voulais être seul avec mon étrange bonheur. Et dans un petit bois qui se trouvait non loin de là, je passai les bras autour d'un jeune arbre et posai ma joue sur l'écorce. Je parlais tout seul, et ce que je disais ne devait pas avoir beaucoup de sens, mais aujourd'hui encore, Ce n'est pas sans émotion que je pense à ces minutes de délire. Rentré chez moi, je me couchais, mais ne dormis qu'assez peu. Que m'importait à présent le plaisir physique, les charmes trop évidents d'un Nichols? J'étais dans d'autres régions, celles de la passion idéale qui plane au-delà des corps. La pureté du regard de Marc me rendait pur. J'aimais sans faute charnelle une personne de mon sexe. C'était, pensais-je, dans le meilleur de l'âme que s'enracinait ce penchant vainqueur.